13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, oui ou non, le cabinet de conseil McKinsey a-t-il payé des impôts sur les sociétés en France entre 2011 et 2020? Le parquet national financier a ouvert une enquête sur le cabinet, pas de ministre concerné. L'annonce est faite à 4 jours du premier tour, dans les intentions de vote, toujours le vent dans les voiles pour Marine Le Pen. Le 25 avril, je serai soit président, soit chef de l'opposition, dit Éric Zemmour sur France Inter. Jean-Luc Mélenchon est l'hypothèse du trou de souris pour se glisser au second tour. Il essaye de gommer l'agressivité qui le colle. Le coup de pression de Volodymyr Zelensky sur les Européens et les sanctions contre Moscou, trop d'indécision. 36 000 réfugiés ukrainiens recensés en France, plus d'un mois et demi après le début de la guerre. Comment se passe leur accueil? 01 45 24 7000, l'appli France Inter pour vos questions et interventions. À 13h30, notre invitée sera la directrice générale de France Terre d'Asile. L'actualité internationale et les horreurs en Ukraine, mais ailleurs aussi, les soldats maliens et l'armée privée russe Wagner accusés de massacres au Mali. Au sommaire également, que s'est-il passé dans un Boeing 777 Air France New York-Paris à l'atterrissage à Roissy ce matin? Les pilotes ont remis les gaz au dernier moment. Elia Bergel nous raconte dans un instant, les échanges avec la tour de contrôle ont été enregistrés. Le basket, les Lakers de LeBron James éliminés en NBA. Le cinéma, en ce mercredi, la chronique d'Alexis de Meyer. Le vif de l'histoire, le ramadan, moins marquant pour les enfants musulmans, entre autres, nous dira Jean Lebrun. Et puis dans C'est une chanson, Gabin le fils nous fait écouter Gabin le père. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est heureusement très rare, mais c'était manifestement la panique dans le cockpit du vol Air France AF011 New York-Paris hier matin. Boeing 777, atterrissage prévu à Roissy à 6h. Juste avant de se poser, les pilotes ont dû remettre les gaz en catastrophe. Le bureau enquête et analyse ouvre une investigation pour incident grave. Elia Bergel, l'échange avec la tour de contrôle a pu être enregistré.
Un échange d'abord routinier, une bande-son juste avant l'atterrissage. À ce moment-là, tout va bien.
Pour France 01, confirmé atterrissage, autorisé atterrissage 26 gauche.
Je confirme à France 01, 230 degrés, 8 nœuds.
Merci.
Nous avons fait authentifier ces communications par un pilote d'Air France dans la suite de l'enregistrement. La situation devient critique, l'avion ne peut pas atterrir comme prévu. Pour une raison encore inconnue, le Boeing 777 est trop à gauche par rapport à la piste d'atterrissage. L'équipage remet alors les gaz en urgence.
Je vous rappelle. Air France 011, on a remis les gaz, donc un problème de commande de vol. L'avion a fait à peu près n'importe quoi.
Un problème de commande, selon l'équipage, l'avion a fait à peu près n'importe quoi. Voilà ce qui est dit pendant cette manœuvre. Les pilotes déclenchent par inadvertance les communications avec la tour de contrôle. C'est pour cela que la conversation est enregistrée. Alors s'agit-il d'un problème avec le Boeing, comme le dit le pilote, ou bien d'une erreur humaine? Les deux options sont sur la table, nous confirme ce midi une source chez Air France. Nous avons pu joindre aussi un passager à bord qui parle de cris de frayeur. L'avion a ensuite réussi à atterrir sans souci. La direction d'Air France regrette l'inconfort pour les incidents, confirme l'incident. Le BEA a ouvert une enquête.
Enquête donc pour incident grave, ce qui signifie que c'est un incident pour lequel il y a eu une forte probabilité d'accident. C'est le dossier qui empoisonne la campagne d'Emmanuel Macron. Le mois dernier, une commission d'enquête du Sénat dénonçait ce qu'elle appelle un phénomène tentaculaire, l'utilisation par l'État de cabinets privés pour aider les différents ministres à prendre leurs décisions. Près d'1 milliard d'euros dépensés l'année dernière, selon le Sénat. Recours habituel, utile, d'autres l'ont fait avant nous, avait répondu le gouvernement en avançant ce chiffre. Ça représente 0,3% seulement de la masse salariale de l'État. Ces procédures ne sont pas illégales, avait précisé le président de la commission d'enquête du Sénat. Mais la justice s'interroge sur un autre aspect du dossier. L'un de ses cabinets de conseil, McKinsey, est accusé de ne pas avoir payé d'impôts sur les sociétés en France pendant 10 ans. Ariane Grissel, le parquet national financier annonce avoir ouvert une enquête préliminaire.
Oui, une enquête ouverte jeudi dernier pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Elle a été confiée au service d'enquête judiciaire des finances. Dans ce rapport publié mi-mars, le Sénat affirme que les filiales françaises de cette entreprise, dont le siège est aux États-Unis, n'ont payé aucun impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020, malgré de nombreuses missions confiées sur le sol français par les pouvoirs publics, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, par exemple, en 2020. Les sénateurs soupçonnent ces filiales d'avoir fait en sorte sorte de transférer une partie des fonds récoltés en France vers la maison mère aux États-Unis et ainsi échapper au fisc. McKinsey, de son côté, conteste les faits, dit être à la disposition de l'administration fiscale. Ce n'est pas la seule procédure qui vise actuellement l'entreprise en France. Les sénateurs ont également saisi la justice de leur côté pour faux témoignage. Ils soupçonnent l'un des directeurs de McKinsey de leur avoir menti pendant une audition sous serment en déclarant justement que l'entreprise payait l'impôt sur les sociétés en France.
Et après l'ouverture de cette enquête préliminaire, enfin, s'exclame le candidat Nicolas Dupont-Aignan sur Twitter, la fraude fiscale, enfin au menu de cette campagne, réagit également le communiste Fabien Roussel. Nous sommes à 4 jours du premier tour de la présidentielle. Quel sera le taux d'abstention dimanche ? Intention d'abstention 30%, c'est ce qui ressortait du sondage Ipsos en partenariat avec France Inter sur ce sujet précis. Nous le détaillons lundi dans cette émission. 30%, si c'est le chiffre qui ressort dans 4 jours, ce serait un record. Les jeunes sont les plus abstentionnistes, les 25-34 ans en premier lieu, puis les 18-24. Pour une partie d'entre eux, dimanche, ce sera la première fois qu'ils iront dans l'isoloir. Alors, petit coup de sonde auprès de primo-votants sur le campus étudiant de La Rochelle, au micro de Julien Fleury.
Je sais pas quoi voter, je sais pas du tout, donc je m'intéresse pas trop à la politique, on va dire.
Pourtant, la politique, ça a normalement un impact
sur
nos vies.
C'est super important, ça, je dis pas le contraire, mais voilà quoi. Je sais pas quoi voter encore, quoi. On verra bien. Je lirai ça dans le week-end.
On est sensibilisés trop tard. Je pense qu'il faudrait que dès 15-16 ans, on ait déjà des trucs à nous aider un peu à comprendre en quoi ça consiste, etc. Parce que là, en fait, c'est à 18 ans, on se fait attaquer par tous les politiciens, etc., qui sont là, prenez le papier, mais oui, mais bah, on sait pas quoi. Enfin,
en plus, c'est partiel, donc on n'a pas forcément le temps de regarder la télé ou quoi que ce soit.
Mais moi, je pense que je ferai vote blanc parce qu'il n'y a aucun candidat où j'ai les mêmes idées que lui.
Enfin, je voterai quand même pour ce qui est important pour moi, l'égalité homme-femme. Et qu'ils fassent des trucs pour les jeunes aussi un peu.
Et après, genre pour le second tour, je voterai contre celui que je veux pas.
Voilà pour ces propos recueillis par nos confrères de France Bleu La Rochelle. Il reste 2 jours avant la fin de la campagne officielle. Les sondages ne sont qu'un élément d'information parmi d'autres. Si l'on accumule les dernières études, Yael Goz, une tendance nette se dessine.
Oui, au point que certains politologues font le parallèle avec 2002, le fameux croisement des courbes auquel Lionel Jospin n'avait pas voulu croire. Comme en 2002, la menace abstentionniste s'annonce massive, proche ou supérieure aux 28% du 21 avril. Pour quelle raison ? Une campagne fantôme, percutée par les crises, le Covid, l'Ukraine et surtout l'impression d'un scrutin déjà joué d'avance. Donc, le vainqueur est celui ou celle qui mobilisera le mieux les siens. À 4 jours du vote, si l'on prend ceux qui sont sûrs d'aller voter, c'est toujours Emmanuel Macron en tête, entre 4 et 6 points devant Marine Le Pen, sauf que les dynamiques sont contraires. L'effet drapeau autour du chef de l'État a reflué, moins 4 points en un mois, nous dit Ipsos Soprasteria, quand Marine Le Pen engrange, plus 7 points en un mois. Jean-Luc Mélenchon à la hausse également, deuxième tour possible, si l'effet vote utile fonctionne à gauche et si les quartiers populaires vont aux urnes. Il y aura match entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, l'union des droites extrêmes de l'un fera-t-elle imploser la droite LR de l'autre? Autre. Yannick Jadot marchera encore pour le climat samedi. Fera-t-il mieux que Noël Mamère en 2002 ? Sa courbe n'a jamais décollé depuis janvier. Celle de Fabien Roussel non plus, mais à un niveau inédit pour un parti communiste absent depuis 15 ans. Enfin, encéphalogramme plat pour Anne Hidalgo qui attirerait 3 fois moins d'électeurs que Benoît Hamon il y a 5 ans. Si Jean Lassalle double le PS, ce sera un autre psychodrame, la fin d'un cycle, 20 ans après la chute de Lionel Jospin. Rien n'est écrit bien sûr, mais en cas de duel retour Macron-Le Pen, le match serait beaucoup plus serré et plus indécis qu'en 2017.
Rien n'est écrit en effet tant que les électeurs n'ont pas voté. Je suis prête personnellement et politiquement à gouverner, dit Marine Le Pen dans une longue interview au Figaro ce matin. Dans le camp de Jean-Luc Mélenchon, on croit encore et toujours au trou de souris qui permettrait aux candidats de se glisser au second tour. Un reproche lui est régulièrement adressé, c'est son agressivité. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
C'est un trait qu'il a essayé de gommer particulièrement en cette fin de campagne.
Oui, un Mélenchon tout doux, mais son caractère, il l'assume, il faut des caractères pour diriger la France. Il n'a pas renoncé à parler de rue, on a d'ailleurs pu le constater hier encore, lorsqu'à plusieurs reprises il a scandé « menteur » à l'attention d'Emmanuel Macron ou « absente » à celle de Marine Le Pen. Mais à l'encontre de la gauche, effectivement plus rien. En 16 mois de campagne, pas une seule fois je ne me suis engueulée avec la gauche et pourtant ma langue en cuit. L'insoumise, c'est que son trou de souris, il le devra donc aux électeurs de gauche, socialistes orphelins d'une vraie campagne, écologistes déçus par le manque de radicalité de leur candidat, ou aux communistes qui considèrent que ça ne valait peut-être pas la peine de faire cavalier seul pour 4%. Alors il faut convaincre délicatement, bloquer la qualification de Marine Le Pen, qui cette fois pourrait se hisser au pouvoir. Il en va de votre conscience, vous qui croyez à l'humanisme social, faites passer le message, a-t-il martelé hier, mais soyez soigneuses et soigneux. Voter pour l'Union Populaire doit être un vote de conviction, mais s'il est utile, on imagine que ça lui ira aussi.
Invité de France Info ce matin, Valérie Pécresse affirme qu'elle est la seule, que la seule union des droites possible, c'est autour d'elle. Quant à Éric Zemmour, il était l'invité de France Inter ce matin. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Et c'était notamment pour lui l'occasion d'aborder l'après-premier tour.
Avec une question déjà maintes fois posée, en cas de duel Macron-Le Pen, quelle sera sa réaction dimanche à 20h02? Réponse sans surprise d'Éric Zemmour.
Je suis convaincu que c'est moi qui serai au second tour. Je ne crois pas en ces sondages.
Méthode couée donc du candidat qu'applique aussi la Zemmouriste et la jurisprudence Mariani, nous dit-on. Officiellement, la question n'a donc jusque-là jamais été abordée. Les différentes hypothèses seront mises sur la table vendredi lors du dernier comité politique. Dans les rangs, certains appellent déjà à l'union avec Marine Le Pen. Reste à savoir si elle accepterait la main tendue. Elle ne partagera pas la scène, indiquaient cette semaine les cadres du RN.
Et à plus long terme, quelle peut être la suite pour Éric Zemmour?
Alors pour la première fois cette semaine, il a laissé entendre qu'il serait candidat aux législatives s'il n'est pas élu président. La suite sera politique, a-t-il réaffirmé ce matin sur France Inter.
Je n'abandonnerai pas les gens de Reconquête, je n'abandonnerai pas les gens qui me suivent. Je ferai enfin cette réconciliation des droites que personne ne veut faire, ni Marine Le Pen, ni Madame Pécresse.
Donc vous ne retournerez pas.
Je suis les seuls.
Vous ne retournerez pas sur CNews, redevenir commentateur politique.
Non, voilà.
C'est sûr, c'est fini,
voilà.
Vous avez basculé dans la politique,
voilà.
pas de machine arrière. Alors concrètement, dans quelle circonscription pourrait se présenter Éric Zemmour? Difficile de se projeter avant les résultats de dimanche, avant de voir la carte électorale du vote zemmouriste. Car si le candidat à la présidentielle se replonge dans une bataille, il faut que ce soit dans de bonnes conditions, prévient un cadre. Cette fois, la défaite ne pourra pas être une option.
Les déplacements et meetings du jour, Yannick Jadot à Bouxwiller, dans le Haut-Rhin, pour parler du gel qui a touché le secteur agricole et du changement climatique, Fabien Roussel à Gentilly, Nicolas Dupont-Aignan à Paris, Philippe Poutou à Bordeaux. Nathalie Arthaud était hier l'invitée du journal de 20h de TF1. Quelle serait sa première mesure si elle était élue à l'Élysée?
Je pense qu'une mesure symbolique qu'on pourrait mettre en œuvre, c'est de publier tous les traités, les accords diplomatiques qui sont secrets. Toutes les tractations entre l'État français et tous les autres pays. On sait que l'État français a des liens très forts avec un certain nombre de dictateurs en Afrique, par exemple. Et puis, dans le cadre de cette guerre en Ukraine, eh bien, je pense que ça serait utile de savoir exactement ce qui a été discuté entre l'État français et Poutine. Parce que vous savez, la guerre dans le Donbass, elle a démarré en 2014. En réalité, la France, elle a continué à livrer des armes à Poutine jusqu'en 2020. Alors voilà, quelles étaient la teneur de ces discussions? Je pense que ça devrait être mis sur la table publique. On sait qu'Emmanuel Macron tutoie Poutine, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Donc on pourrait aussi mieux mesurer la responsabilité des uns et des autres dans ce qui se passe là-bas, et puis les enjeux aussi, les enjeux économiques et politiques.
La candidate lutte ouvrière Nathalie Arthaud et puis Jean Lassalle était l'invité de CNews ce matin. Nous avons, dit-il, nous avons besoin de prouver au peuple que nous allons lui redonner le pouvoir. La meilleure manière de le faire, c'est de comptabiliser le vote blanc dimanche prochain. C'est Monsieur Blanc qui serait en tête. Nous serions le nez contre la muraille, obligés de trouver des solutions. La campagne électorale, estime Jean Lassalle, n'a rien dit d'essentiel. Et à propos d'éventuelles sanctions contre la Russie, il a ces mots. À partir du moment où les principaux pays de l'Union européenne sont pris au coup, dépendance vis-à-vis de l'énergie russe. Les mesures que nous prenons n'ont pas le moindre effet. Nous sommes dans une situation d'impuissance totale.
France Inter, le 13-14. Bruno Dill.
Ce n'est pas l'Ukraine, mais ce sont d'autres accusations de massacre dans l'actualité internationale. Au Mali, depuis 2020, une junte militaire est au pouvoir. Les relations dégradées au fil des mois ont amené la France à décider le retrait progressif de l'opération antiterroriste Barkhane dans le pays. Et voilà les soldats qui obéissent à cette junte, associés à des combattants de l'armée privée russe Wagner, accusés d'avoir commis pendant plusieurs jours le massacre de centaines de civils. C'est l'organisation Human Rights Watch qui accuse Bertrand Galichet.
Oui, le massacre rapporté par Human Rights Watch a eu lieu dans la localité de Moura, à une centaine de kilomètres à l'ouest de la zone des trois frontières, Mali, Burkina Faso, Niger. Le 27 mars, jour de marché aux bestiaux sur place, des hélicoptères transportant des soldats noirs et aussi des mercenaires blancs seraient arrivés et auraient échangé des tirs avec les djihadistes mêlés à la foule. Des témoins racontent ensuite des exécutions sommaires de civils par centaines et mettent en cause des hommes blancs en tenue de combat qui ne parlait pas français, ce qui fait penser à une implication du groupe russe Wagner, dont l'état-major malien ne fait aucune mention. Selon les forces armées maliennes, les militaires ont mené une opération dite de grande envergure dans l'agglomération qui compte plusieurs milliers d'habitants. Bilan officiel, 203 terroristes tués et 51 autres faits prisonniers. Entre le 23 et le 31 mars, les soldats maliens auraient procédé ainsi à un nettoyage de toute la zone, selon la formule des militaires. Ils auraient pris le contrôle de la localité avant de faire un tri pour identifier les djihadistes. Human Rights Watch veut que la mission des Nations Unies au Mali et l'Union africaine soit associée à l'enquête que réclament également la France et les États-Unis.
Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré est condamné par le tribunal militaire de Ouagadougou à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. C'était en 1987. Condamnation par contumace en l'absence de Compaoré, donc, qui vit en exil en Côte d'Ivoire. En Ukraine, le président Zelensky met un peu plus la pression sur l'Europe qui prépare de nouvelles sanctions contre la Russie après les accusations de crimes de guerre contre les soldats de Moscou. Le monde entier est au courant de ces crimes et nous devons encore convaincre l'Europe que le pétrole russe ne peut pas financer la machine de guerre russe. Voilà ce que dit Zelensky en visioconférence devant le Parlement irlandais. Il fustige l'indécision d'une partie des dirigeants européens. Un pays européen pousse pour des sanctions radicales, c'est la Pologne. Deux caractéristiques, pays naguère sous la coupe de Moscou et frontalier avec l'Ukraine. C'est en Pologne que plus de la moitié des 4 200 000 exilés d'Ukraine vivent en ce moment. Envoyé spécial de France Inter en Pologne, Julie Pietri.
C'est une déclaration parmi d'autres de Mateusz Morawiecki, le premier ministre ultra-conservateur polonais.
J'appelle les leaders de l'Union européenne à une action ferme. Monsieur le président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Personne ne négocie avec Hitler. Est-ce que vous négocieriez avec Hitler?
La Pologne pousse pour des nouvelles sanctions européennes, y compris un embargo rapide sur le pétrole et le charbon russe. Une partie de la population soutient, même si cela doit avoir des conséquences. C'est le cas de Bartek, étudiant en droit à Varsovie.
Je pense que nous devons être aussi durs que possible. Ma vie est plutôt confortable comparée à ce que vivent les Ukrainiens. J'accepterai ça.
Adam Kulash, ancien diplomate, ex-ambassadeur pour l'Union européenne en Afrique, est plus mesuré.
Bien sûr, quand on a un pays qui s'impose comme agresseur, il faut réagir très vivement, mais il ne faut pas donner des leçons aux autres, parce que la division de l'Europe, c'est un des buts de Poutine.
Sans attendre l'issue des négociations entre les 27 pays de l'Union européenne, la Pologne a déjà prévenu, elle n'achètera plus aucune énergie russe d'ici la fin de l'année.
Et je vous parlais des plus de 2 millions d'exilés d'Ukraine qui vivent en ce moment en Pologne. 36 000 sont arrivés en France depuis le début de la guerre. Comment se passe leur accueil? Ce sera notre sujet à 13h30. Appelez-nous 01 45 24 7000 pour vos questions. Ou si vous participez à une opération de solidarité, vous pouvez intervenir aussi sur l'appli France Inter-rubrique Réagir. Notre invitée sera la directrice de France Terre d'Asile. À propos des sanctions, c'est en principe aujourd'hui que de nouvelles sanctions doivent être annoncées en coordination entre États-Unis, G7 et Union européenne. Alors, quelles sanctions européennes? L'Union est-elle prête à un embargo sur l'énergie russe? Par ordre d'impact économique, charbon, pétrole et gaz le plus impactant, le président du Conseil européen, Charles Michel, était ce matin devant le Parlement de Strasbourg.
Nous devons faire tout ce qui est possible pour que ces atrocités cessent. Nous sommes en train de renforcer nos sanctions pour maintenir une pression aussi élevée que possible sur le Kremlin. Nous devons éviter tous les contournements des sanctions. Et nous sommes disposés à travailler vite sur de nouvelles sanctions coordonnées et fortes. Le nouveau paquet comprend une interdiction d'importation de charbon. Mesdames et messieurs, je pense que des mesures sur le pétrole et même le gaz seront nécessaires tôt ou tard.
en l'état.
Charles Michel, ce matin devant le Parlement européen, propos sélectionné par Angélique Bouin. Autre rendez-vous aujourd'hui et demain, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN pour le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Les Russes font se réarmer, recevoir des renforts pour lancer une nouvelle offensive sur la région du Donbass que Moscou contrôle déjà en grande partie dans l'est de l'Ukraine. Dans cet est de l'Ukraine, l'agence France-Presse note des bombardements continus sur la ville de Severodonetsk et le gouverneur de Louhansk au Donbass appelle les habitants à évacuer tant que c'est possible. Les expulsions de diplomates russes soupçonnés d'espionnage en Europe continuent. La Grèce, après d'autres pays dont la France. Le réarmement de l'Europe continue aussi. La Finlande va augmenter de 40% son budget de défense d'ici à 2026 et l'Allemagne annonce qu'elle va pour la première fois se doter de drones armés. Du côté de l'économie, un chiffre qui dit l'impact tout de même des sanctions en Russie. Les ventes de voitures neuves dans le pays sont en baisse de 63% au mois de mars par rapport à il y a un an. Conséquence bien secondaire, conséquence économique de cette guerre par rapport à tout ce qu'on a vu depuis lundi, mais ça montre que ces effets se ressentent dans la vie quotidienne des Européens. Au Royaume-Uni, on risque de manquer de poisson et d'huile de friture, deux ingrédients d'un des plats nationaux, le fish and chips. Reportage dans un restaurant du sud de la capitale, France Inter à Londres, Richard Place.
Les pommes de terre britanniques ne manquent pas et dégringolent dans la machine à découper des frites. En cuisine, chez Oli's, on se prépare à l'arrivée des clients, même si Harry Niazi, le patron, craint pour son approvisionnement.
L'huile de cuisson, gros problème, ça vient d'Ukraine. Ils fournissent 80% des besoins ici et en Europe. Comme ils ne produisent plus, les tarifs ont grimpé de 20%. Mais c'est la disponibilité qui me terrifie. S'il n'y a pas d'huile, comment je cuis mes poissons ?
Dans les bains d'huile de tournesol bouillante, pour leur bien rempli, le chef dépose les poissons recouverts de panures. Du cabillaud, 30 à 40% du stock acheté à des pêcheurs russes habituellement. Des fournisseurs frappés par un embargo, Harry ne peut plus compter sur leur prix. Ce client régulier vient chercher son fish and chips hebdomadaire.
C'est un plaisir occasionnel, mais je n'aime pas l'idée de manger du cabillaud importé de Russie, bien sûr. Il y a matière à réflexion.
Cette crise s'ajoute au coût du carburant et de l'énergie qui s'envolent au Royaume-Uni. La Fédération nationale des vendeurs de poissons frits estime que 3000 des 10 000 enseignes du pays risquent de disparaître avant la fin de l'année. Londres, Richard Place, France Inter.
Et alors que la Russie est en guerre en Ukraine, une des figures de la droite nationaliste dans le pays, Vladimir Jirinovski, vient de mourir à 75 ans. C'était l'un des politiques russes les plus hostiles envers l'Occident. Plus des deux tiers de la récolte d'abricots, des baronniers et fichus. Premières estimations, les derniers jours du gel ont eu raison une fois de plus de la production 2022. C'est même plus chez ce producteur, Jean-Marc Filbert, à Saint-Sauveur-Gouverné. 25 hectares d'abricots, il a peut-être sauvé 4 hectares seulement qu'il a plus protégés. Pierre-Jean Pluvy.
Jean-Marc ne peut que constater les dégâts. Les abricots ne font que quelques millimètres.
Voilà, quand on ouvre le fruit, vous voyez, il est déjà ratatiné, quoi. Quand vous le prenez, regardez, on dirait qu'il a été carbonisé. Donc, et puis bon, confirmation, vous ouvrez, le noyau est noir. Mais de l'autre côté, bon, c'est un des vergers qu'on a protégé. C'est, je pense, le seul qui a, aujourd'hui on peut dire...
Sur cette parcelle, un feu de bois fume encore. La nuit dernière, Jean-Marc et ses fils ont tout tenté pour sauver ces 4 hectares.
Donc vous avez l'abricot qui est bien vert par rapport à celui qu'on a vu tout à l'heure qui était ratatiné. Normalement, ah ben celui-là, vous voyez, il est mort aussi. Voilà, celui-là, le noyau est bien blanc, il est bon.
C'est la 6e année que la récolte est détruite par le gel, plus ou moins selon les années.
Pendant les premières années de gel, j'ai toujours dit à mes deux fils, ne vous découragez pas, soyez optimistes, il y aura de bonnes années en abricot, il faut y croire encore. Aujourd'hui, la 6e année consécutive, j'ose plus les conforter dans cette voie.
Jean-Marc s'est battu pendant des années pour que l'abricot des baronnies obtienne le label IGP, Indication Géographique Protégée. Dans 2 ans, ce sera chose faite. En espérant une fois encore une bonne récolte l'année prochaine.
Voilà pour ce producteur de la Drôme. Reportage Pierre-Jean Pleuvy, France Bleu, Drôme, Ardèche. Après les contaminations à la bactérie E. coli liées à la consommation de pizza Fresh Up, Marc Buitoni, le préfet du Nord ordonne l'arrêt des 2 lignes de fabrication de l'usine du Nord, site de production de Caudry, près de Cambrai, où travaillent 220 personnes. Le basket et ce coup de tonnerre. Dans le sport américain, la star du basket US, LeBron James et son équipe des Lakers de Los Angeles ne joueront pas les phases finales de la NBA.
Leur saison tourne au fiasco, Vincent Pellegrini.
C'est face à l'une des toutes meilleures équipes de la saison, les Suns de Phoenix, que les Lakers ont sombré la nuit dernière. 7e défaite consécutive et cette élimination humiliante pour cette équipe que l'on pensait taillée pour jouer les premiers rôles. Mais rien n'a fonctionné comme espéré pour la formation la plus médiatique et la plus titrée de la NBA, sacrée 17 fois, dernière couronne décrochée il y a seulement 2 ans. La recrue vedette Russell Westbrook a déçu, les blessures se sont accumulées dans l'effectif, le jeu collectif s'est délité au fil des mois et LeBron James n'a pas pu à lui seul éviter le naufrage. La star des parquets n'a pas grand-chose à se reprocher, il a de nouveau évolué à un niveau exceptionnel cette saison, preuve qu'à 37 ans, il demeure compétitif, lui qui va manquer les phases finales pour la 4e fois seulement en 20 ans de carrière. La question de son avenir va désormais se poser, alors qu'il a affirmé récemment vouloir jouer encore une saison. Certains évoquent un possible retour de LeBron James chez lui, à Cleveland, pour y finir sa carrière.
En football, la suite des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir. Chelsea, Real Madrid et Villarreal, Bayern Munich à 21h. Nous en venons aux sorties cinéma du mercredi. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour.
Vous nous avez parlé ce matin, Alexis, d'un film japonais, Conte du hasard et autres fantaisies. C'est signé Hamaguchi, réalisateur de Drive My Car, récemment oscarisé. Il y a bien sûr plein d'autres choses à l'affiche. Des comédies françaises. Alors on va bien sûr évoquer Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le 3e volet. D'abord, place à votre coup de cœur de la semaine en même temps?
Oui, après la fracture numérique dans Effacer l'historique, les réalisateurs grolandais Gustave de Kervern et Benoît Delépine s'attaquent cette fois-ci au clivage gauche-droite.
La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi?
Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède.
Voilà, Jonathan Cohen est un maire de droite, Vincent Macaigne un élu écolo, mais des militantes féministes les collent littéralement l'un à l'autre. Ils vont donc devoir apprendre à cohabiter. Comme à son habitude, le duo Kervern de Lépine met son sens du gag au service d'une fable politique particulièrement bien sentie. C'est leur côté en même temps à eux. La deuxième heure du film est moins rythmée que la première, mais l'ensemble reste très savoureux et bourré de jolies trouvailles comiques.
En même temps, donc, qui vous a plu? Vous avez en revanche été moins convaincu par Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu?
Non, j'ai beaucoup moins ri déjà, ce qui n'est pas forcément bon signe pour une comédie. Il faut dire que les blagues concernent uniquement les minorités, les véganes ou encore l'art contemporain et le théâtre, quitte à être un peu lourd, car c'est bien ça le concept de cette trilogie du bon Dieu aux dizaines de millions de spectateurs. Rire de l'intolérance et tant pis si ça rime parfois avec complaisance.
Je suis en face de votre sympathique papa.
Et je connais pas ces gens-là.
J'ai l'impression qu'on s'est trompé de chinois.
Le réalisateur Philippe de Chauvron ne recherche pas la subtilité. Son film est un empilement de clichés et même les dialogues semblent écrits cette fois-ci à la va-vite. Problématique aussi le traitement réservé aux personnages féminins, le plus souvent cantonnés à des rôles de faire-valoir, pour ne pas dire potiche.
Alors, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Donc, allez, on franchit les Pyrénées maintenant, découverte d'un très joli film espagnol, Libertad.
Oui, premier long métrage de la jeune réalisatrice Clara Roquette, une belle histoire d'émancipation et d'amitié entre deux adolescentes. Le temps d'un été dans une maison de vacances sur la Costa Brava.
Maman te está engañando. La vie liándose con un hombre.
Avec un beau dégradé de couleurs chaudes, Clara Roquette filme de façon très juste ces jeunes filles qui entrent dans l'âge ingrat. Mais au-delà de l'adolescence, Libertad parle aussi et peut-être même surtout des rapports de classe. Nora est issue d'une famille bourgeoise. Sa copine Libertad est en revanche la fille de la domestique, une immigrée colombienne qui travaille sans relâche et souffre en silence. On assiste ainsi à une nouvelle variation sur la relation entre maître et valet, si chère à Molière, à Jean Renoir, ou plus récemment au créateur de la série britannique Downton Abbey.
Libertad donc, et en même temps chaudement recommandé par Alexis Demeyer, nettement moins Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. C'était les sorties cinéma de la semaine. La météo dans un instant.
Coucou, c'est moi.
Ah, alors, ça s'est bien passé chez le médecin?
Oui, il m'a redonné mon traitement et je suis passée le chercher à la pharmacie.
C'est toujours un médicament Mylan?
Non, maintenant ça s'appelle Viatrice.
Viatrice? C'est quoi la différence?
Aucune, c'est comme avant.
Mylan devient Viatrice et nous continuons de vous proposer les mêmes médicaments de qualité dont une partie importante est produite en France. Viatrice, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie.
France Inter M.
Après Drive My Car, Oscar du meilleur film étranger, Contes du hasard et autres fantaisies, du cinéaste japonais Ryusuke Hamaguchi. Un triangle amoureux, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d'un malentendu. Trois histoires, trois femmes qui vont devoir faire des choix. Contes du hasard et autres fantaisies actuellement au cinéma. Un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Beaucoup de nuages et quelques pluies cet après-midi.
Oui, les coins de ciel bleu seront plutôt discrets cet après-midi. On verra quand même de belles éclaircies autour du golfe du Lion. En Provence, c'est un épais voile nuageux qui atténuera le soleil. Quelques timides trouées arriveront aussi à filtrer entre le Poitou-Charentes, l'Île-de-France et la Champagne. En revanche, sur le reste du pays, les nuages seront souvent compacts et s'accompagneront parfois de pluies ou d'averses. En Corse, les pluies seront même régulières cet après-midi. Entre le sud-ouest et le nord-est, on retrouve la perturbation qui est arrivée lundi et qui donne encore quelques pluies, notamment entre le midi toulousain et l'ouest Auvergne. Et puis sur le nord-ouest, les averses de cet après-midi, ce sont les prémices d'une nouvelle perturbation qui nous apportera beaucoup de pluie et beaucoup de vent demain. Le vent va déjà s'accélérer cet après-midi sur la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France. Les températures maximales, elles, restent stationnaires sur les trois quarts du pays. Prévoyez quand même quelques degrés de plus sur le quart nord-est. On attend 12 degrés à Lille et au Havre, 14 degrés à Nantes, Dijon, Toulouse, Tours et Ajaccio, 15 degrés pour Strasbourg, Nice, Clermont-Ferrand et Cognac, 16 degrés à Paris, Lyon et Marseille et jusqu'à 17 degrés à Montpellier.
Sébastien Léas, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Depuis le début de la guerre, fin février, plus de 11 millions d'Ukrainiens, un quart de la population, ont quitté leur maison ou leur appartement. 7 millions se sont déplacés à l'intérieur des frontières. Plus de 4 millions ont quitté leur pays. La Pologne est de très loin le premier pays d'accueil. En France, au dernier recensement, 36 000 personnes sont arrivées, à 90% des femmes et des enfants. Comment se passe leur accueil? Comment penser à plus long terme? C'est notre sujet jusqu'à 13h45. Je vous attends au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. La directrice générale de France Terre d'Asile est avec nous aujourd'hui. Bonjour Delphine Rouillot.
Bonjour.
36 000, c'est le chiffre, 36 000 exilés d'Ukraine arrivés en France, c'est le chiffre de la police aux frontières, c'est bien cela. Tous ne restent pas forcément en France, certains sont de passage.
Certains sont de passage, on voit beaucoup de personnes arriver dans les gares et souhaiter partir en Espagne, au Portugal. D'autres demandent des visas pour rejoindre le Royaume-Uni. Et donc vous avez peut-être 36 000 personnes qui sont arrivées en France, mais il y a 30 000 autorisations provisoires de séjour qui ont été délivrées par les autorités préfectorales. Donc ça, c'est des gens qui ont a priori vocation à rester sur le territoire français.
Est-ce qu'il y a moins d'arrivées depuis quelques jours?
Très clairement. C'est-à-dire qu'on a observé dans les deux premières semaines de mars, des arrivées très significatives à Paris, à Strasbourg, à Nice. Et depuis une dizaine de jours, on voit bien que les arrivées sont beaucoup plus faibles. Le centre d'accueil que France Terre d'Asile a ouvert à Paris a pu accueillir jusqu'à 500 personnes par jour. Et aujourd'hui, c'est plutôt 50-60 personnes qui ont besoin d'hébergement tous les jours à Paris.
Vous l'expliquez comment la guerre un peu moins violente dans une partie du pays, les gens en Pologne qui ont peut-être plus l'énergie au bout de ces longues semaines de guerre de traverser l'Europe?
On explique ça par beaucoup de raisons. Je pense que la première, c'est que les personnes qui avaient des bonnes raisons de venir en France sont venues. C'est-à-dire que les gens qui avaient des réseaux, de la famille, des amis, des attaches ou une maîtrise de la langue française qui pouvait les inciter à vouloir fuir vers la France rapidement ont pu venir. Après, effectivement, je pense qu'on entend tous beaucoup de choses sur le fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être un peu plus d'espoir pour certaines personnes de rester en Pologne pour pouvoir espérer retourner en Ukraine. Donc sans doute aussi que ça a participé de ce ralentissement. Maintenant, il reste 4 millions de personnes en dehors des frontières de l'Ukraine, donc le problème est loin d'être résolu.
Évidemment, côté français, les deux villes d'arrivée principales, c'est Strasbourg et Nice, c'est ça?
C'est ça, Strasbourg, Nice et Paris.
Plein de questions concrètes au standard. Agathe, notamment. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Alors, vous hébergez trois Ukrainiennes, je lis sur ma petite fiche. D'abord, je voulais savoir comment ça se passe, depuis combien de temps, et est-ce que vous vous projetez à plus long terme dans ce geste d'accueil?
Aucune durée, bien sûr, n'est envisagée. Ça prendra le temps qu'il faudra. Elles sont arrivées dimanche, après 6 jours de long voyage. trois jours à pied pour rejoindre la frontière ukrainienne. Et ensuite, un bus de la mairie a été affrété, un minibus pour rapatrier les personnes. Donc, elles ont eu trois jours de minibus pour rejoindre, du coup, la Bretagne.
Oui, parce que vous êtes dans le Morbihan. Quelle est votre question ?
Alors, très concrètement, il y a un vent de panique là auprès du coup d'Irina et sa maman Nadia. Elles ont des discours contradictoires entre du coup le consulat et l'ambassade d'Ukraine en France qu'elles ont appelé dès qu'elles sont arrivées lundi. Leur question, c'est qu'elles avaient le sentiment du coup mardi que si elles n'avaient pas fait tamponner en fait leur passeport à la frontière polonaise, elles étaient considérées comme clandestines chez nous. Et leur question très pratique, elle m'a demandé de vous poser, c'est de quelle durée sera leur protection temporaire sur notre territoire en France, le temps que la situation se stabilise dans leur pays et qu'elles puissent regagner leurs proches qui sont au combat.
Merci Agathe pour votre question. Delphine Rouillot de France Terre d'Asile vous répond.
Alors, il faut vraiment tout de suite les rassurer sur le fait qu'il n'y a aucun risque et aucune difficulté, surtout si elles sont de nationalité ukrainienne, qu'elles ont un passeport ou des documents d'identité. D'abord, il faut savoir que les personnes ukrainiennes, elles avaient un droit de circulation sur le territoire de l'ensemble de l'Europe de 3 mois par la simple présence de leur passeport. Donc, il n'y avait pas besoin de tamponner quoi que ce soit. Et ensuite, ce qu'il faut que ces femmes fassent désormais, c'est qu'elles fassent des démarches auprès de la préfecture pour se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour auquel elles ont le droit au titre de la protection temporaire, qui est le droit spécifique qui a été créé par l'Union européenne pour les réfugiés de la guerre d'Ukraine. Donc c'est une autorisation de 6 mois qui sera renouvelable pour toute la durée du conflit, au maximum de 3 ans, mais d'ici là, tout ça aura largement eu le temps d'évoluer. Donc il n'y a aucun sujet, aucun risque qu'elles soient en situation irrégulière ou qu'elles ne puissent pas bénéficier des aides auxquelles elles ont droit.
Cette protection temporaire ouvre quel droit ?
Alors, c'est encore un petit peu en cours de discussion avec les autorités françaises, mais disons que ça ouvre le droit au travail, ça ouvre le droit immédiatement à l'assurance maladie, donc à avoir des soins de santé remboursés, ça ouvre le droit pour bénéficier d'un hébergement, et ça, là où ça se discute encore un petit peu, c'est sur les aides familiales, ça ouvre le droit à des aides au logement, dont on attend en fait une précision sur le montant encore aujourd'hui. Mais concrètement, c'est un ensemble de droits qui sont importants et qui ont vocation à permettre aux gens de pouvoir s'installer durablement. Ça ouvre le droit, pardon, à la scolarisation des enfants, évidemment, aussi.
Qui se passe comment, la scolarisation, puisque ce sont quasi uniquement des femmes et des enfants qui arrivent à 90% en tout cas.
Alors je crois que l'éducation nationale a communiqué ce matin sur un chiffre de près de 5000 enfants qui seraient déjà scolarisés. Il y a deux sujets, c'est qu'en fait il y a déjà des familles qui sont un petit peu installées, qui ont soit parce qu'elles sont accueillies dans d'autres familles, dans de l'hébergement citoyen, soit parce qu'elles ont pu trouver un logement, qui ont la possibilité de faire déjà scolariser leurs enfants. Et donc dans ces cas-là, on sait que tous les rectorats sont très mobilisés et les mairies sont très mobilisées pour que ça se fasse. Il y a quand même encore beaucoup de familles qui sont dans des hébergements d'urgence, qui sont dans la première phase d'arrivée en France et qui ne sont pas encore durablement stabilisées dans une ville, dans un territoire. Et donc pour ces familles-là, quand bien même il y a des enfants, elles ont des enfants avec elles, tous les enfants ne sont pas encore scolarisés parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens de les inscrire dans une école et puis de les déplacer d'ici quelques semaines.
Julien, vous êtes professeur de collège à Apt et vous nous appelez au standard. Bonjour Julien.
Oui, bonjour.
Il y a des élèves ukrainiens dans votre établissement ?
Oui, actuellement, donc moi je suis professeur de français, mais je m'occupe aussi de l'accueil des élèves allophones dans une structure qui s'appelle...
Allophone, c'est autre langue, hein, pour le dire en une formule.
Oui, voilà, exactement. Et si vous voulez, nous on a eu des directives ministérielles pour que finalement les enfants puissent être scolarisés rapidement, en fait, dans ces structures qui existent déjà. Voilà.
Et pardon, très concrètement, oui. Il y en a combien dans votre collège ? Ils sont dans des classes à part ? Comment ça se passe ?
Alors, actuellement, j'ai 8 élèves réfugiés, donc ukrainiens. Ils bénéficient actuellement de 18 heures donc de FLE, français langue étrangère. Mais ils sont aussi dans une classe de rattachement. Concrètement, en fait, ils suivent quelques cours avec des camarades de classe. Et puis, pour l'essentiel, en fait, ils ont des cours de français. Voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Julien. La scolarisation, ça se passe plutôt bien pour l'instant, Delphine Rouillot. Il n'y a pas encore trop d'obstacles, même si c'est compliqué, forcément.
Non, mais l'obstacle, monsieur l'a dit très bien, ça sera la maîtrise de la langue. Donc, en fait, l'enjeu, c'est véritablement de pouvoir très rapidement proposer des cours de français à tous ces jeunes enfants. Après, la France a quand même l'habitude d'accueillir des réfugiés dans des classes dites UP2A, qui sont des dispositifs adaptés pour des enfants qui ne parlent pas encore la langue. Et donc, c'est très agréable d'entendre que ces dispositifs ont été immédiatement ouverts et adapté à ces jeunes enfants.
Je voulais revenir sur le témoignage d'Agathe qui amène deux questions. D'abord, en lui répondant, vous avez dit si les trois personnes qu'elle héberge ont la nationalité ukrainienne, pas de problème. Il y a une partie, petite partie, des exilés d'Ukraine qui n'ont pas cette nationalité. C'est plus compliqué pour eux.
C'est plus compliqué pour eux. Alors,
des gens qui étaient étrangers en Ukraine et qui viennent
exactement,
du pays.
Exactement. Des gens qui étaient étrangers en Ukraine, qui travaillaient, qui étaient résidents en situation parfaitement régulière, ou qui étaient étudiants et qui, n'ayant pas la nationalité ukrainienne, pourraient ne pas se voir délivrer la protection temporaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Donc, toutes ces personnes-là, les préfectures leur délivrent des titres de séjour d'un mois pour l'instant. Et on est en attente de voir, en fait, un petit peu comment est-ce que leur situation va être traitée dans les mois qui viennent. Mais c'est un sujet de préoccupation. Enfin, moi, je me suis, dès le début, France Terre d'Asile, on s'est mobilisé là-dessus pour alerter et expliquer qu'il fallait essayer d'avoir une approche très égalitaire du traitement et à ouvrir les mêmes droits à tous les réfugiés de guerre. C'est pas encore le cas, mais la France est encore en capacité de changer de doctrine et d'offrir cette protection temporaire à tous ceux qui fuient la guerre, quel que soit leur pays d'origine.
Deuxième question, avant d'entendre Claire dans un instant au standard. Agathe, elle héberge donc trois personnes chez elle. Elle dit il n'est pas question de durer pour l'instant, on ne regarde pas ça. Est-ce que l'hébergement chez les particuliers est une solution durable ?
Alors, l'hébergement chez les particuliers, c'est une solution qui est intéressante et durable, mais qui est homéopathique par rapport à la réalité des besoins. C'est-à-dire que on a besoin de solidarité. Il y a eu un élan formidable d'expression de beaucoup de personnes qui se sont dit prêtes à accueillir. Il y a des associations qui sont spécialisées, qui travaillent sur ces questions-là. Et nous, on travaille avec les associations spécialisées pour accompagner ces familles qui se disent prêtes à accueillir. Néanmoins, il faut bien mesurer ce que ça signifie d'accepter quelqu'un chez soi pour une durée indéterminée. Il faut mesurer à la fois l'effet pour soi, pour son propre cadre familial, son propre équilibre familial, et puis l'effet pour les familles hébergées aussi. Et donc, en fait, nous, ce que l'on dit, c'est qu'on a besoin d'accompagnement social, il faut pouvoir accompagner les hébergeurs, accompagner les hébergés, et il faut définir une durée, justement parce que ça permet de se projeter, et il faut permettre aux familles qui sont dans de l'hébergement citoyen aujourd'hui de penser ensuite leur propre autonomie et donc l'accès à un logement durable.
On est un mois et demi, un peu plus même après le début de la guerre. Y a-t-il parmi les 30 000 dont on parlait, 30 000 personnes arrivées, certaines qui sont sorties vraiment de l'hébergement d'urgence et qui sont déjà dans des logements?
Sans doute grâce à la mobilisation dans certains territoires de mairies qui ont pu mettre des logements à disposition, mais c'est très marginal encore aujourd'hui. Il faut être très clair. Aujourd'hui, les gens sont principalement hébergés soit dans des dispositifs d'hébergement d'urgence, des hôtels, des centres de vacances.
Dans tout le pays.
En région parisienne, à peu près 5 000 personnes et partout ailleurs en France.
Avec des déceptions quand on dit aux femmes et aux enfants qui arrivent, vous allez aller à la campagne, par exemple.
Oui, mais ça c'est un très classique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, bien évidemment, les personnes, quand elles arrivent, surtout que les personnes qu'on a vues arriver sont plutôt des citadins en Ukraine, comprennent pas nécessairement quand on leur dit, on va prendre un bus et puis vous proposer de partir en Bourgogne dans des villes qui sont nécessairement de plus petite taille. Néanmoins, il faut être très clair sur le fait que les grandes villes françaises sont pas en capacité d'accueillir tout le monde. Et par ailleurs, le discours que nous, les associations et que les services de l'État tiennent à ces familles, c'est qu'elles seront sans doute bien mieux accueillies dans des cadres de plus petite taille où il y a une super mobilisation de la commune, de la mairie, des services de l'État, des associations locales, que parfois dans des grandes villes dans lesquelles l'accès au logement est beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, ça crée des déceptions et donc ça nous demande un gros travail de sensibilisation.
Claire au standard, bonjour Claire.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, je m'attendais à... J'avais envie de recevoir des personnes ukrainiennes pour leur donner un peu de chaleur humaine. Et quand j'ai cherché, je n'ai rien trouvé, aucune structure qui me permette ce type d'élan, de générosité. Alors il se trouve que par une amie d'amis, j'ai reçu deux jeunes femmes ukrainiennes, chacune avec un jeune enfant. Et l'humanité qu'on leur a apportée autour d'un repas à la maison et puis après une promenade dans le bois de Vincennes qui est proche de chez nous, vous auriez vu leurs yeux, il y avait des étoiles dans leurs yeux. C'était, pour elles, c'était merveilleux de se sortir de cette gangue quand elles sont arrivées en France, elles ont besoin d'autre chose que de...
Voilà, c'est ça. Ce que vous dites, c'est qu'au-delà de la question du logement, il manque peut-être, et je pose la question à Delphine Rouillot, des structures pour échanger, recevoir, passer un moment convivial avec les personnes qui arrivent.
Mais je partage parfaitement ce que dit madame. Nous, on a développé un programme qu'on appelle Duo de Demain, qui est un programme de parrainage citoyen, et qui justement vise à permettre à des citoyens français de parrainer des réfugiés, et donc de les emmener, exactement comme madame le dit, dîner, se promener, au musée, au théâtre, tout simplement pour leur faire découvrir un peu la culture française et leur donner un peu de chaleur humaine, et pas que les seules personnes avec qui les réfugiés discutent tous les jours, ça soit des travailleurs sociaux, mais bien aussi des citoyens français.
Duo parrainage.
Duo de demain.
Duo de demain, pardon.
Tout à fait. Donc ça, c'est le dispositif de France Terre d'Asile.
Ouais.
Et par ailleurs, il y a un site qui est important, qui est réfugiés.info,
okay,
qui est le site du ministère de l'Intérieur, qui recense toutes les initiatives associatives de parrainage existantes, et qui doit permettre à chacun, il y a une carte interactive qui est très bien faite, qui permet à chacun vraiment de voir à côté de chez lui qu'est-ce qu'il pourrait faire comme voilà pour s'engager.
Beaucoup de questions standards sur le thème. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'on peut répondre? Vous, de votre fenêtre à vous, France Terre d'Asile.
D'abord, c'est pas nous qui avons besoin, c'est les Ukrainiens,
ouais,
qui ont besoin. Non, je pense qu'il y a deux choses.
De quoi avez-vous besoin pour les aider?
Voilà, non, mais bien sûr. Il y a deux choses. C'est d'abord, on a été très frileux sur l'appel aux dons, parce qu'on a considéré que ce dont on a besoin, de dons matériels, vous,
ouais,
savez, donner des couches, donner des biberons, etc. Les grandes associations comme nous, elles ont besoin de dons financiers, en réalité, pour pouvoir monter des programmes. Donc, si vos auditeurs ont envie de faire des dons de matériel bébé, des choses comme ça, c'est plutôt aux mairies qu'il faut les donner, parce que c'est les mairies ensuite qui vont, dans la prise en charge des familles, pourront distribuer ça aux familles qui en ont besoin. Et après, nous, association en tant que telle, ce dont on a besoin, c'est plutôt, je vous dis, de soutien financier pour pouvoir ensuite réussir à penser des dispositifs innovants, notamment pour les cours de français, l'apprentissage, l'accès à l'emploi, des choses comme ça. Mais clairement, pardon, excusez-moi, je termine.
Allez-y.
S'il faut donner, moi je vous encourage de la donner à la Croix-Rouge, au HCR, à des grandes organisations internationales qui sont présentes en Ukraine, parce que c'est quand même là que les besoins sont principaux.
C'est noté. Merci Delphine Rouillot, directrice générale de France Terre d'Asile, et donc ce site réfugiés.info et le site évidemment de France Terre d'Asile et des autres associations présentes dans tous les pays concernés. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le ramadan a commencé samedi dernier pour les musulmans.
Donc si je calcule bien, 5e jour, 5e nuit aussi.
Vous nous en parlez dans 10 minutes, les enfants notamment dans le ramadan, dans votre chronique. Notre feuilleton, une semaine dans la vie d'une entreprise de transport. Comment le métier a changé depuis la dernière crise pétrolière, c'est l'épisode du jour. Et tout de suite, c'est une chanson.
Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Une exposition consacrée à Jean Gabin vient d'ouvrir ses portes à Boulogne-Billancourt près de Paris et paraît aussi un très beau livre aux éditions de La Martinière, livre coécrit par Mathias Moncorgé, le fils de Gabin, que vous avez rencontré.
Et il parle avec un plaisir infini de son père, Mathias Moncorgé, tout comme il le fait dans ce livre, il parle de Gabin dans l'intimité.
Les gens s'imaginent que papa, il était bourru. En fait, il a jamais levé la voix. C'était un père de famille formidable, et qui était là tout le temps. Bon, il travaillait, il disait « je vais au boulot », mais il était à la maison, à 7h30, il était à la maison, et il était là toutes les vacances, par exemple. Il avait cette chance-là de pouvoir choisir les dates pour ses films. En fait, en gros, c'était du 15 septembre au 15 décembre qu'il travaillait, et du 15 janvier au 15 juin.
Est-ce que vous vous rappelez de votre père chantant?
Alors, plus papa dansant à la maison. Chanter, non. Non, 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 non. C'est ce que j'explique toujours, il écoutait tous les dimanches accord accordéon, et il se mettait des fois à danser avec maman. Et il dansait à merveille, hein, papa. Il dansait la valse à l'envers, en plus. C'était un des rares.
Hein. Ça se danse comment, la valse à l'envers?
Eh bien, comme une valse, mais à l'envers.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais, je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne.
Et ce titre, Frédéric, c'est « Maintenant, je sais », il est sorti en 1974.
Elle signe le retour de Jean Gabin à la chanson 38 ans après « Quand on se promène au bord de l'eau ». On doit la mélodie au compositeur Philip Green. Il l'a envoyée à l'acteur sur une cassette par la poste. Mathias Moncorgé s'en souvient, il était avec ses deux sœurs.
Papa dit « Tiens, on m'a envoyé ça, c'est un anglais, là, il veut que je fasse une chanson avec ça ». Et nous, évidemment... Ah bah oui, c'est super, une chanson, c'est super, plus qu'un film, quoi, pour nous. Parce qu'on préférait les chanteurs, quoi, à l'époque. Alors après, il a dû rencontrer quelqu'un qui lui a présenté Dabadie, Jean-Louis Dabadie.
Pour les paroles.
Pour les paroles.
Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.
Et elle est sortie au mois de juillet, donc au mois d'août, elle passait dans les boîtes. Et on était à Deauville. Quand je rentrais de boîte tôt le matin, il était là parce que papa se levait de très bonne heure. Et il me disait alors, dans ton bordel, parce qu'il appelait ça les bordels, dans ton bordel, ils ont passé la chanson. Ben, je dis oui. Il la passe tout le temps parce que pour les slows, ah bon, et vous aimez ça? Ben, je dis oui, ça marche bien. Alors il était content.
Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais.
Il faisait danser.
Il faisait danser. Et il était heureux, en fait. Ça l'avait beauté, comme on dit.
Est-ce que vous pouvez m'en lire quelques mots?
Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge.
C'est plutôt pour moi. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais.
Maintenant, je sais.
Dis moins bien que papa.
Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses.
C'est intemporel, hein, cette chanson.
C'est tout ce que je sais.
Vous pourrez la mettre dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans.
Mais ça, je le sais.
Maintenant, je sais, Jean Gabin. C'était donc, Frédéric, le choix de son fils, Mathias Moncorgé.
Co-auteur d'un très beau livre publié à La Martinière, libre sobrement intitulé Jean Gabin, comme l'exposition qui lui est consacrée jusqu'au mois de juillet à l'espace Landowski à Boulogne-Billancourt.
Le feuilleton, une semaine au sein de l'entreprise de transport Coton, c'est le nom de famille du fondateur, le père. Au-delà de la hausse du prix du carburant, regarde aujourd'hui sur le métier de routier et comment il a évolué. Le père Coton s'appelle Paul. Officiellement, il est à la retraite, mais vous allez le voir, il continue de donner un coup de main régulièrement. Pour parler de camions, il dit tracteur. Les camions tractent la marchandise. C'est donc désormais son fils Jérôme qui dirige l'entreprise et joue les intermédiaires entre Sarah Guibaudot et le pater familias.
Et est-ce que vous voulez faire un tour de camion?
Ouais, carrément.
Mon père, faut qu'il parte livrer un truc, donc à ce moment-là.
Ah, bah très bien, votre père fait des.
Bah ouais. C'est sa passion, le camion, sa passion.
Mon père fait comme moi, il sert un peu de dernière roue du carrosse quand il nous manque du monde ou quand on a un petit coup de bourre sur l'activité. Donc mon père prend un réel plaisir à monter dans le camion pour partir livrer.
Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes Paul Coton, le créateur de l'entreprise.
Ouais, tout à fait, ouais.
Vous êtes dans le transport routier depuis quand?
Depuis quand je suis rentré de l'armée, depuis 72.
Vous aviez passé votre permis à l'armée, c'est ça?
Passé le permis à l'armée, ouais. Et après j'ai cherché un employeur, j'ai trouvé tout de suite.
Et quand est-ce que vous avez créé votre entreprise?
J'ai créé mon entreprise dans les années 80. Commencé avec un camion. Après deux, trois, quatre. Et maintenant, je suis à la retraite et c'est mon fils qui reprend la suite.
Est-ce que vous avez vu le métier changer depuis les années 80?
Oui, ça change, ah oui. Mais plutôt en bien. Le matériel est quand même plus performant, il y a des outils de manutention, c'est moins physique, quoi. Et puis le matériel, les tracteurs, c'est des voitures, des belles voitures maintenant.
C'est-à-dire que les camions, moi je les appelle comme ça en langage courant, sont plus faciles à conduire?
Ils sont beaucoup plus faciles à conduire, beaucoup plus confortables, voilà. Il y a un chauffage, il y a la clim, le frigo, voilà. Les couchettes sont confortables.
Est-ce que les routiers français font les mêmes trajets qu'avant?
Non. Maintenant, les routiers français font plus du régional, du national. On ne peut pas envoyer un routier français à l'étranger.
Pourquoi ?
Bah avec les pays de l'Est, vu les salaires qu'ils ont aux pays de l'Est et les salaires qu'on donne en France, avec un salaire français, vous payez 4 roumains. Donc, le choix est vite fait. Hein.
Vous, quand on vous parle de choc pétrolier, ça vous rappelle des souvenirs plus anciens ?
Choc pétrolier, on en a connu déjà, ouais.
Mais vous...
Mais c'était pas si proche aussi. Là, c'est en Europe, quoi. C'est une guerre, quoi. C'est un pays qui en attaque un autre. Ça pose de sérieux problèmes. On est juste au début des problèmes.
Oui, Alain, de nouveau, Jérôme à l'appareil. Dis-moi, c'est toi qui as été livré hier à Bourg-en-Bresse. C'est où, à peu près ?
Attends, je te mets sur haut-parleur.
Oui. Donc, c'est quand il descend, alors je ne sais pas par où il va arriver, et au giratoire, il prend la première à droite, et après, il y aura le portail un peu plus loin. Mais par contre, il faut qu'il prenne bien large. Hein.
Vous venez avec moi, alors ? À profiter du soleil.
C'est un paysage de campagne assez plate, avec beaucoup d'étangs. On voit des oiseaux, des ronds.
Des cigognes. Regardez.
Où ça ?
Cigognes, là. Ça, c'est un tracteur routier. C'est un tracteur qui a 5 ans, 6 ans, 600 000 km. Et bon, on en a commandé pas mal, une dizaine de tracteurs neufs. Et là, impossible de les avoir avec la crise ukrainienne. Avec la crise sanitaire, ça a retardé. Et là, on ne les a toujours pas reçus. Et ce qui se passe en ce moment avec la Russie, on continue avec les vieux camions.
Est-ce que les camions sont bloqués à l'est ?
Ils sont bloqués à l'est, ouais. Il y a des usines en Ukraine qui ont été bombardées, donc pour l'instant on ne sait pas quand l'est on sera livré. Quoi. Bon, là c'est parti pour une petite livraison sur Bourg-en-Bresse.
Le feuilleton signé cette semaine, Sarah Guibaudeau, réalisation Théo Raison.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun dans le vif de l'histoire aujourd'hui, le Ramadan, qui a commencé samedi dernier, c'est le mois le plus long de l'année pour les musulmans.
À cause du jeûne qu'il impose le jour, mais aussi des joies qu'il permet la nuit venue. Si une prière bien connue dit « Je demande pardon pour tout plaisir goûté en dehors du rappel de ton nom », c'est que le plaisir a droit de citer. Simplement, il doit être accompagné de l'attestation de Dieu. On sait que cette attestation est un des piliers de l'islam, comme la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Le Ramadan associe les quatre premiers comme aucun autre moment de l'année. Dieu, invoqué par les fidèles, les enveloppe de sa miséricorde. Leurs aumônes sont plus bienfaisantes, leurs prières plus exaucées.
Et le Ramadan, selon la tradition, c'est le meilleur des mois, comme le vendredi, jour de prière, est le meilleur des jours. Et il accueille le meilleur des envoyés, le meilleur des messages.
C'est une nuit de Ramadan que le prophète reçoit pour la première fois la parole. C'est le mois pendant lequel le Coran est descendu comme guidance pour tous les hommes. Dans le Ramadan, la pénitence, ce n'est pas l'axe essentiel, c'est bien plutôt le mois de l'abondance des grâces.
Association Ramadan, Coran, prophète, association avec l'enfance aussi.
Oui, c'est une grande responsabilité des parents musulmans que de former à la pratique du Ramadan leurs enfants, dont les souvenirs ensuite vont se réveiller chaque année. Dimanche, je dînais avec une jeune égyptienne, Malak, 20h22, le moment autorisé, dès 20h22. Et elle me disait combien le Ramadan peut être un enchantement. Certes, c'est pas facile de jeûner, mais des accommodements peuvent être apportés pour les petits, et à ceci, que de surprises offertes par le changement des rythmes, le droit de veiller, les autres familles qui viennent rendre visite. En Turquie, pour prendre l'exemple d'un autre pays, des filaments lumineux se mettent à scintiller entre les minarets des grandes mosquées, des théâtres d'ombre jouent dans les rues. Le même émerveillement que celui offert par les illuminations de Saint-Nicolas aux enfants de Lorraine et d'Alsace, vous savez, qui vivent des hivers si longs.
Et alors on retrouve les souvenirs d'enfance, mais il change tout de même le Ramadan.
Oui, cette transformation assure son regain contemporain qui est indéniable. Le Ramadan, il est ductile. Il s'est glissé dans le nouvel espace défini par la télévision, puis par les réseaux sociaux. Aux origines, la rupture du jeûne la nuit venue s'accompagnait de la lecture réciproque du Coran. Les usines à série proposent maintenant des feuilletons de Ramadan. Et c'est aussi par les écrans que passe la consultation des imams. Les croyants qui craignent de mal jeûner posent des questions de plus en plus minuscules. Est-ce qu'on peut enlacer sa femme quand on jeûne? Est-ce qu'on peut nager? Est-ce qu'on peut mâcher un chewing-gum? Est-ce qu'on peut se brosser les dents? Alors le plaisir des imams cathodiques, il faut bien qu'ils en aient, qui se prêtent à cette scolastique, c'est évidemment d'étendre jusque dans le détail le domaine de la norme qu'ils s'attribuent de pouvoir définir. C'est une tendance très contemporaine. Comme celle d'étendre le domaine du commerce, l'ouverture des supermarchés n'est pas interdite la nuit. Les plus riches peuvent aussi s'offrir des ramadans de luxe, par exemple thalassothérapie à Casablanca. La somme que vous auriez pu consacrer à l'aumône, et ben maintenant, elle va vous permettre de contrôler votre jeûne avec trois objectifs, minceur, santé, vitalité. Et cet usage du ramadan complique les politiques publiques parce que les États doivent tenir compte des pratiques privées de plus en plus différenciées. On va pas en dire plus, Bruno, parce que s'il y a un point commun dans la tradition du carême qui s'achève bientôt pour les chrétiens et celle du ramadan qui commence pour les musulmans, c'est l'appel à la retenue jusque dans la parole. Et les plus laïcs de nos auditeurs, là, d'entendre parler de religion, en seront certainement d'accord.
Alors, nous nous arrêtons là. Merci Jean Lebrun pour le vif de l'histoire et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, dans quelques minutes, quel est le programme?
On va essayer de dépolluer le débat public avec un ouvrage sur le greenwashing.
À tout de suite.